sur RFI, les 8h23, ici à Paris. C'est l'heure de la revue de presse de Norbert Navarro. Bonjour Norbert.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Et à la une de la presse française ce matin, l'homme qui a dénoncé les abus sexuels présumés des casques bleus en Centrafrique.
Il s'appelle Anders Kompass, il est suédois et il fut haut fonctionnaire aux Nations Unies. Il fut, car il a été saqué par l'ONU, regrette en une le journal Libération. Alors étant précisé que saqué signifie ici renvoyer sans ménagement, pour ne pas dire viré ou mis à la porte comme un malpropre, ce quotidien explique que cet homme qui en savait trop, comme disait Alfred Hitchcock, a donc été saqué pour avoir alerté sur les abus sexuels perpétrés par des soldats en Centrafrique, et Anders Kompass parle ce matin dans Libération. Décrit pourtant comme discret par le journal, ce Suédois, longtemps tenu au silence, n'évite aucune question. Sous la mèche blonde poivrée, le regard sans but quand il évoque les enfants de la République centrafricaine trahis par ceux qui devaient les protéger, relève la consoeur qu'il a interrogée à Stockholm. Son récit, c'est celui d'une machination orchestrée au plus haut niveau des Nations Unies pour dissimuler l'immobilisme d'une organisation incapable de lutter contre les abus commis par ses propres soldats, énonce Libé.
Alors justement Norbert, quel est son récit rapporté par Libération ?
Eh bien, tout commence en juillet 2014 quand Anders Kompass reçoit un rapport de 6 pages rédigé par la Française Galiane Paléré, fonctionnaire des Nations Unies détachée pour 3 mois à Bangui. Ce rapport contient des témoignages de 6 enfants qui accusent des militaires français de la force Sangaris de violences sexuelles. Aussitôt, le Suédois contacte le représentant du HCDH à Bangui. Il était très en colère que le rapport nous ait été transmis, dit-il. Il m'a dit que c'était un dossier sensible et qu'il avait besoin de temps pour enquêter, dit-il donc, à Libération. La suite, eh bien, selon ce journal, le chef de la division des droits de l'homme à Bangui a en réalité tout fait pour étouffer le scandale, conseillant même au chef de la mission sur place, le général Babacar Ngueye, de ne pas intervenir. Kompass remet le rapport à l'ambassadeur de France à Genève et en informe sa supérieure, la haute commissaire adjointe Flavia Panzieri. Puis le temps passe jusqu'à ce 12 mars 2015 où il est convoqué par cette même supérieure hiérarchique qui l'informe que le haut commissaire, le prince jordanien Zaid al-Hussein, exige sa démission. Raison pour laquelle l'homme qui en savait trop doute de la volonté des Nations Unies de mettre fin, dit-il, à la culture d'impunité de l'organisation. Selon lui, on tolère des comportements considérés comme des dommages collatéraux au lieu de réfléchir à l'impact qu'ils ont sur la crédibilité de l'ONU auprès des populations locales.
Et Norbert, il n'est pas le seul à parler.
Oui, un ancien expert du Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies parle également dans Libération ce matin. Il s'appelle Peter Gallo. Il a témoigné devant la Chambre des représentants aux États-Unis. Cet Écossais souligne d'abord qu'au sujet des affaires d'abus sexuels, la première chose à comprendre est que l'ONU ne souhaite pas en entendre parler. Il affirme que les missions de maintien de la paix font tout pour réfuter les accusations, notamment en discréditant les plaignants et les témoins. Il assure que Kompass a été victime d'un complot pour se débarrasser de lui. Un complot, dit-il, ourdi notamment par la chef de cabinet de Ban Ki-moon, Susanna Malcora et le haut commissaire aux droits de l'homme Zaid al-Hussein. Et il dénonce le niveau de faillite morale du haut commissaire aux droits de l'homme, de la chef de cabinet, du responsable des services de contrôle interne et de celui du bureau de la déontologie. Ils ont concentré leur attention sur Kompass, mais aucun d'entre eux n'a semblé réaliser que, dans cette affaire, on parlait de viol sur des enfants. Aucun n'a décidé que c'était abominable et qu'il était nécessaire de faire quelque chose. Ils en porteront une honte éternelle, accuse donc Peter Gallo dans Libération.
Ces accusations tombent en tout cas au plus mal, Norbert, alors que la force militaire française Sangaris doit quitter la Centrafrique.
Et oui, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, doit se rendre à Bangui dimanche. Officiellement, donc, Sangaris s'en ira, laissant seuls les casques bleus qui ont du souci à se faire en Centrafrique, prévient Libé, tant ils sont critiqués par la population. Comme le craint d'un euphémisme ce quotidien, le passage de rôle à la MINUSCA risque d'être délicat.
Des abus sexuels, certains mettent parfois toute une vie pour les dénoncer, comme ces victimes d'actes de pédophilie à l'église qui témoignent par centaines.
Oui, c'est la une du journal Le Parisien. Quelques 400 témoignages de nos aînés recueillis par l'association Parole Libérée qui se disent victimes jadis de prêtres pédophiles, jadis car l'un de ces anciens a 83 ans, l'autre en a 93 et il n'a jamais rien dit à sa femme. Et pour la première fois, tous parlent, l'omerta est enfin brisée, lance le Parisien, tout est dans le « enfin », bien sûr.
Et puis en Irak, 10 jours après le lancement de l'opération Reconquête, le front n'est plus qu'à une dizaine de kilomètres de la ville de Mossoul. 900 combattants de l'organisation État islamique auraient déjà été tués.
Oui, combattants à leur manière, hein, c'est bien simple. Ils ne combattent pas, ils se suicident, constate ce même journal Libération, aux portes du bastion de l'État islamique. Les rescapés de Mossoul, eux, racontent l'enfer de Daesh dans le Figaro, car les islamistes semblent déterminés à se faire tuer à Mossoul, souligne ce journal. Ils sont 10 fois moins nombreux que les troupes adverses, mais l'arithmétique ne fait pas bon ménage avec la guerre. Les coalisés combattent pour la liberté, la justice et aussi pour les intérêts de leur peuple ou de leur communauté. Retranchés dans la ville et privés de perspectives de salut, les cavaliers de l'apocalypse n'ont rien à perdre. Or justement, avertit le Figaro, ne plus rien avoir à perdre, c'est souvent dans un conflit la plus terrible et la plus inexpugnable des motivations.
C'était la revue de presse de Norbert Navarro sur Radio France Internationale.